Calpic, merci de votre
invitation.
Bienvenue
sur ce plateau, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes donc paléo-anthropologue au Collège de France et voici votre dernier ouvrage en date, Les chimpanzés et le télétravail. A priori, le lien peut surprendre, on va y venir dans un instant, ouais. Car il est au contraire extrêmement logique, vers une révolution anthropologique, vous posez la question. C'est paru aux éditions Erol. Avant de venir aux chimpanzés et au télétravail, une toute première question sur notre espèce, que vous étudiez ô combien depuis longtemps. Vous dites que notre espèce, elle a une spécificité, l'être humain, c'est d'apprendre tout au long de la vie. Est-ce que ça signifie que, quand on est paléo-anthropologue au Collège de France, à votre grand âge, si j'ose dire, si je puis me permettre, est-ce que vous continuez vous-même à apprendre tous les jours?
Quand j'étais jeune, on nous disait « qui va piano, va sano », comme si, dès le départ, à la naissance, nous avions un potentiel qu'il fallait économiser le mieux. Et aujourd'hui, on sait très bien que plus nous continuons à exercer des fonctions à la fois physiologiques, affectives, cognitives, etc., plus on vieillit longtemps. D'ailleurs, vous savez, sur le travail, on s'aperçoit que là, sujet très sensible, où la sortie pour la retraite est le plus tardif, mieux se portent les personnes. L'inactivité, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas décroître, mais en l'occurrence, c'est une caractéristique. Si on s'arrête, ça s'détériore.
Et on va en apprendre aussi, tout au long de la ville, dites-vous, on va en apprendre de belles sur vous aussi dans un instant, Pascal Pic. Parce qu'on va regarder votre portrait. Oui, si. Il est signé, comme chaque samedi, Philippe Ridet, et il est lu par Amira Swilem.
Mon cher Pascal Pic, au milieu du siècle dernier, Paris était encore entouré de champs et de jardins. Avant d'être rouge, la ceinture était verte. Passer les boulevards des maréchaux, régnaient les maraîchers. Maraîcher, c'est justement le métier de vos parents, Georges et Ginette à Gennevilliers. Ils sèment, bêchent, sarclent. Nés il y a 67 ans, vous les accompagnez parfois, enfants, la nuit, aux halles, où ils vendent leur production, et vous partagez à l'aube une entrecôte avec les commis. Mais un jour, tout bascule. La banlieue ne doit plus seulement nourrir les Parisiens, mais les loger. Les rectangles HLM remplacent les carrés de salade. Vous avez 10 ans quand les pics sont expropriés. Papa se recycle en chauffeur poids lourd. Maman travaille à l'usine. Boursier, vous vous accrochez à vos études au lycée d'Argenteuil. Bac scientifique en poche, vous vous inscrivez en fac de physique. Mais une autre passion vous dévore, les origines de l'homme.
Vous dites à vos parents, je vais être éthologue, faire des grands singes, c'est pas la grande carrière qui s'annonce. Hein.
La datation va vous permettre de conjuguer vos talents. Deux rencontres enfin, celle de Bernard van der Merch, puis d'Yves Coppens, le découvreur de Lucie, vont sceller votre destin de paléanthropologue en France et aux États-Unis où vous avez enseigné. Votre thèse porte sur l'articulation temporo-mandibulaire des hominidés. Plus pointu, y a pas, non.
Ça, c'est fascinant tout de même.
Votre passion pour les primates vous a conduit à les comparer avec malice à certains hommes politiques et vice-versa. Quand on a été exproprié à 10 ans, on peut tout se permettre, dites-vous. Désormais, ce ne sont plus les carottes que vous déterrez de l'argile du bassin parisien, mais des fragments d'os d'australopithèques que vous arrachez dans le rift éthiopien. Mais mon cher Pascal, c'est bien la même histoire qui se poursuit. Remuez la terre comme vos parents. Elle attend à nous donner.
On va pas revenir, Pascal Pic, sur l'intitulé exact de votre sujet de thèse.
Non, déjà paléanthropologue, c'est assez dur.
Et justement, votre mission de paléanthropologue, c'est de fouiller, de remonter dans le passé, de remonter aux sources, de remonter aux racines. Et pourtant, dans plusieurs de vos ouvrages, notamment sur la politique, quand vous avez relié les grands singes et certains de nos grands singes de la vie politique, et dans celui-ci, les chimpanzés et le télétravail, bah, vous auscultez le présent et même le futur d'ailleurs. Comment est-ce que vous passez comme ça de cette remontée aux sources, si j'ose dire, à l'exploration du futur?
Il y a deux aspects dans ma discipline. Le grand passé, vous avez évoqué, c'est vrai que j'ai commencé par un sujet de biomécanique masticatoire, voilà, je l'ai remplacé. Et de fait, ça m'a permis de toucher évidemment toutes les espèces, parce que quand on étudie une structure anatomique, notamment la mastication, vous savez, la mastication chez nous, les primates et les singes, c'est du grand art. C'est une biomécanique extrêmement complexe, avec des aspects cognitifs absolument hallucinants. Donc, et le régime élémentaire a un rôle très important pour l'adaptation par rapport aux sens de l'environnement, même à la société, ce qu'on appelle la société, la socio-écologie. Et puis, il y a l'autre dimension qui est celle de comment s'est fait l'évolution. Et ces dernières années, en effet, je regarde la société actuelle en train de changer à travers le prisme et les concepts, donc des théories de l'évolution.
Alors, vous avez sillonné, évidemment, au fil de votre carrière, la planète à la recherche de fossiles.
Pas trop.
peux quand même. En tout cas, oui. Nous, on en a un fossile pour vous. Enfin, une archive, plus exactement, Frédéric. On a une archive à vous montrer. C'est une époque lointaine où l'avion était une libération.
Oui, alors pas si lointaine à l'échelle de votre étude, mais 1973, ça commence déjà à remonter, Renaud, avec les premiers succès des vols charter. Ça y est, les avions pour le bout du monde à portée de toutes les bourses, ou presque. Écoutez ce qu'en disait la télévision publique française à l'époque.
Maintenant, une nouvelle ère commence, l'ère des charters. Ils sont en train de bouleverser toute l'économie du marché aérien. Quand on descend à Orly, dans la salle réservée à l'accueil de ces touristes, l'aspect le plus frappant de ce bouleversement reste encore le prix du voyage.
Pourquoi prenez-vous la formule charter ?
Bah parce qu'on trouve ça plus pratique. Et surtout plus économique.
Quel prix paye-t-on pour aller à Bangkok ?
En ce qui me concerne, 2200 francs.
Le bout du monde, pas plus cher que la Côte d'Azur, c'était tentant.
Alors, au moment de ce reportage, vous aviez vous-même, Pascal Pic, 19 ans. C'était l'avion pas cher, c'était la découverte du monde entier, cette ouverture. Que vous inspire aujourd'hui les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, qui pour des raisons écologiques ne veulent plus prendre l'avion?
Mais ça, je le comprends tout à fait, tout en rappelant qu'on n'a jamais pris l'avion aussi facilement. Moi, j'ai toujours dit, je trouvais scandaleux, par exemple, que l'on ait un prix d'avion soldé qui ne tienne pas compte au moins du coût écologique, du coût CO2, par exemple. Après, ça, on remplit les sièges, pourquoi pas.
Moins cher que le train, parfois même.
Mais derrière cela, on a évoqué mon passage aux États-Unis. En 1980, c'est ça, quand je suis parti là-bas, il fallait aller chercher les charters quand même, ou au Luxembourg, ou en Belgique. Donc, il y en avait très peu en France, hein, soyons très clairs. Il y avait le monopole d'Air France et on ne se déplaçait pas comme cela. Alors, les jeunes ont raison, évidemment, tout en rappelant qu'effectivement, moi, j'ai vu autour de moi, dans ma famille ou plus loin dans les relations que je peux avoir, comment, avec ces accès extrêmement peu chers, notamment à travers le programme Erasmus, j'ai voulu se balader à droite, à gauche, etc. Donc, des fois, il y a des petits reproches qui sont faits à ma génération, des baby-boomers, ce que je veux bien comprendre. On n'a pas tout juste, on n'a pas tout faux non plus. Mais je rappelle quand même aux jeunes générations, sauf celles qui ont pris conscience, qu'à leur âge, ils ont beaucoup plus voyagé que moi au même âge. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention pour tous les âges.
Dorothée.
Pascal Pic, plus récent comme bouleversement que les charters, le télétravail, qui a eu cette conséquence évidemment de limiter la frontière entre le loisir et la vie professionnelle. Vous dites dans votre livre que c'est très récent à l'échelle de la vie humaine, cette différence entre la vie privée et la vie professionnelle.
Bah, on l'a vu, hein, ne serait-ce que pour ma famille. Quand j'étais petit, on voyait les gens en fonction de leur tenue. Il y avait une fierté d'être ouvrier, il y avait une fierté d'être paysan, d'être boucher. Ce qui est un peu perdu aujourd'hui, sauf les grands artisans que l'on voit dans les médias, bien évidemment. Et on avait une identification très claire de cela. Tout ceci a disparu dans les années 70 et surtout 80. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on en est à la deuxième génération qui a connu une séparation très, très stricte entre le travail et la vie privée. En l'occurrence, on voit dans le reportage qui me concerne, hein, il est bien, hein, j'adore, en ce qui concerne l'arrivée de la banlieue, eh bien, c'est là que se met en place ce qu'on appelle les transports pendulaires. Les banlieues vont s'installer là où il y avait les faubourgs, et une dimension supplémentaire, ça va être métro, boulot, dodo. Et c'est devenu absolument infernal, et on voit comment la crise de la Covid-19, avec ces villes qu'on a vues complètement dégagées des voitures, enfin c'est absolument incroyable, le ciel qui est devenu bleu dans beaucoup de cités, d'un seul coup on s'est dit mais c'est complètement absurde. On était sur cette logique-là qui aujourd'hui va être bousculée. Alors attention, le tout télétravail, non, ça ne va pas être pour tout le monde, soyons très clairs, ça va dépendre beaucoup des métiers, des professions, des conditions sociales, donc on le présente comme la solution absolue. Non, tout ceci va être une renégociation extrêmement complexe dans notre société.
Et vous expliquez dans votre livre, autour de cette révolution anthropologique justement au cours du télétravail, notamment, et du rapport au travail, qu'il y a deux types de comportements distincts, différents. Vous les distinguez tous les deux. Il y a le comportement du chimpanzé et celui du macaque. Pourquoi vaut-il mieux être chimpanzé probablement que macaque au travail? Expliquez-nous la différence entre les deux.
Alors, il y a toujours des chimpanzés et des macaques. Simplement, il est vrai qu'il y a dans le monde du management des grandes modes. En ce moment, c'est les méthodes agiles. Donc, c'est très bien. Mais les méthodes agiles, c'est ce qui a été utilisé, par exemple, avec l'intelligence artificielle et des tas de systèmes d'évaluation et de tests et aussi de simulations pour trouver les vaccins. Vous vous rendez compte, les vaccins, en 6 mois, on en a eu plusieurs. Donc ça, il faut avoir des méthodes plus chimpanzées que je vais expliquer dans un moment. Et puis vous avez les méthodes plus macaque, qui est beaucoup plus directif et top-bottom, comment dire en bon français.
C'est vertical.
Si vous êtes dans les génériques, n'allez pas vous faire des méthodes agiles. Mmh. Soyez efficace et soyez productif. Donc c'est vraiment une question de management. En gros, on a regardé un petit peu, des collègues ont regardé quels étaient les groupes qui innovent le plus et qui s'adaptent le mieux. Ce qu'on appelle les systèmes adaptatifs complexes, ce qui est le cas de nos sociétés et du monde du travail. Et en l'occurrence, ils ont dégagé deux typologies, celle des macaques, qui est top-bottom, c'est-à-dire c'est très descendant, c'est des tâches d'exécution, c'est très autoritaire, on ne demande pas aux individus d'apporter des initiatives, et on essaye d'incrémenter dans la productivité, etc. Et puis il y a la méthode chimpanzé, alors là aussi, attention au mode, hein, on disait, ah ouais, c'est plus du top-bottom, c'est du bottom, non, non, ça, il n'y a aucune société.
C'est plus participatif, c'est plus collectif, c'est
voilà,
plus...
il n'y a pas de société animale, dans lequel il n'y a pas de hiérarchie, c'est la manière dont s'exprime la hiérarchie. Et on s'aperçoit que ce sont des boucles d'interaction complexes à tous les niveaux et qui fait appel effectivement à des compétences qu'on n'avait pas identifiées chez les collaborateurs et les collaboratrices. Donc ça dépend vraiment des systèmes. Et les entreprises qui étaient déjà engagées sur ces problématiques avant la Covid-19, plus on va parler peut-être des problématiques RSE, sont plus avantagées dans le monde qui vient.
Vous, Frédéric, êtes plutôt chimpanzé.
Et l'un des... Bon, merci, c'est un compliment, donc hein, c'est ça. Et puis l'un des problèmes également de ce télétravail, vous en parlez dans le livre, ce sont les contacts physiques qui deviennent inexistants entre collègues, le lien social, les rituels, dites-vous, disparaissent, c'est celui-là aussi.
D'où le titre, pourquoi les chimpanzés ? C'est parce que les chimpanzés ont des sociétés de fusion-fission. Ils fusionnent pour des activités à très haute qualité sociale, et ils fissionnent pour des activités plus prosaïques ou pour être un peu plus tranquilles.
Individualisées, etc.
Il y a le lien, la machine à café, c'est l'épouillage.
C'est l'épouillage, c'est ce qu'on appelle l'épouillage. Et les études d'anthropologie le montrent très bien, et c'est valable pour chez nous aussi, que plus il y a de relations de qualité, bien sûr. Parce que dans les entreprises, on sait très bien que l'absentéisme, comme trop de présentéisme, donc trop d'épouillage, ce n'est pas un bon signe non plus, s'il n'est pas de qualité, bien évidemment. Ceci est directement corrélé à la qualité des relations et cette espèce de contrat, pas social, mais qui a une dominance sociale entre les individus. Et c'est ça qui émergeait dans les commentaires des DRH et des managers et des managers de direction, c'était comment maintenir la cohésion avec tout cela. Donc pas de souci, on sait le faire, nous avons un grand passé par rapport à cela, mais après deux générations, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui a perdu ses repères par rapport à ça, comment remettre en place cette dynamique de fusion et de fission.
Et il ne faut donc jamais négliger de s'épouiller, les amis, n'oublions pas, y compris au travail. Alors Pascal Pic, je vous propose maintenant un petit